Tu nous dis, notre Père, que si nous vivons par l'Esprit, nous devons également marcher par l'Esprit. Et donc, aide-nous ce matin à comprendre ce que c'est la spiritualité, une spiritualité qui te plaît, une spiritualité qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons, Seigneur, utiles à ton service. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous voyez dans le titre ici, c'est un titre qui choque. J'ai lutté un peu avec la personne qui m'aide souvent avec mes plans. Est-ce que ce titre est approprié et pas juste un peu méprisant, grandi un peu? Est-ce que j'ai droit à dire cela à vous ce matin, les amis? Grandi un peu. Éventuellement, ça nous rappelle un parent un peu fâché, j'imagine, avec un enfant. Si cela vient d'un père qui est dur, qui est égoïste, qui cherche simplement à casser son enfant lorsqu'il dit une telle chose, cela n'est pas l'équivalent approprié de ce que l'apôtre Paul cherche à communiquer à cette église à Corinthe. Mais il y a un moyen, ponctuellement, pour un père de parler fermement à un enfant. Pas pour le casser, mais afin de mettre un enfant face à ses responsabilités. D'avertir un enfant du danger d'une action ou d'une autre qu'il est en train d'entreprendre. Là, on peut dire « grandis un peu ». Et ça pique un petit peu, n'est-ce pas? Parce que ça remue un peu la réflexion chez l'enfant. Et c'est dans ce sens-là que Paul parle dans ce texte. Parce que ce qu'il dit, ça pique aussi un peu. Et on voit ça d'abord au verset 11 de notre texte, si vous l'avez sous les yeux. « J'ai été un insensé. » Pourquoi? « Vous m'y avez contraint. » Donc pourquoi se sentait-il, l'apôtre Paul, dans le contexte des différentes prédications qu'on a vues, se sentait-il obligé de se vanter, même lorsqu'il s'est vanté, il l'avait fait d'une manière un peu ironique, car il se vantait rien que dans ses faiblesses et pas de ses attributs. Mais ça le gênait de devoir se vanter, quoi qu'il en soit. Mais pourquoi? Car c'était nécessaire pour corriger leur façon immature de comprendre l'autorité spirituelle au sein de l'Église. Et on le voit encore plus fort ce temps au verset 13, n'est-ce pas? « Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi cette injustice-là. » Alors ici, l'ironie devient carrément du sarcasme. Car l'intention ici de Paul n'est pas du tout que eux, ils lui pardonnent. Non, justement, il ne leur a pas fait de tort, et c'est son but en disant cela, c'est de les reprocher pour leur attitude. Et donc, pour revenir à notre titre ce matin, dois-je, moi, ou devons-nous, en tant qu'Église, grandir un peu? Comme les Corinthiens, en fait, devaient grandir un peu. Alors, tout dépend maintenant de notre contexte de comprendre l'autorité spirituelle aujourd'hui. Nos présupposés que nous pouvons avoir au sujet du ministère chrétien. Comment nous concevons la maturité chrétienne et ce que nous désirons, nous, au sein de notre Église, encore aujourd'hui. Ce texte nous fournit, je pense, quelques critères pour discerner une autorité spirituel authentique. Et dans notre contexte d'aujourd'hui, où est-ce que nous pouvons trouver quasiment tout ce que nous voulons sur le marché spirituel, même sous la bannière de l'Église chrétienne, il y a tout et n'importe quoi dans ce marché-là. Alors c'est utile pour nous ce matin, même indispensable, de pouvoir faire le tri par rapport à ce qui se trouve dans le marché. À l'époque de cette lettre, des soi-disant super-apôtres, nous avons entendu parler de ces super-apôtres au verset 5 du chapitre 11, donc juste avant notre texte, ils avaient infiltré cette jeune église, implanté cette église par l'apôtre Paul lui-même. Paul a pris 18 mois avec cette église, selon Actes 18. Et après son départ, ces super apôtres se sont manifestés. Et bien sûr, c'est un titre ironique que Paul emploie par rapport à ces personnes-là, car ils ne sont ni apôtres, ni super. Chapitre 11, verset 13, Paul les classifie comme étant de prétendus apôtres, des ouvriers trempeurs déguisés en apôtres de Christ, serviteurs de Satan même. Voilà pourquoi les enjeux sont grands, car partir dans la direction d'une spiritualité trompeuse n'est pas une chose anodine, pas une chose simplement secondaire. C'est d'être gravement dans l'erreur. Que notre Dieu, donc encore aujourd'hui, nous garde dans notre Église de cela. Et donc, voici dans le plan trois critères, si vous voulez, que Paul nous donne pour discerner une autorité spirituelle authentique. Premier critère, ça concerne Paul lui-même, l'apôtre authentique. Preuve de Paul. Paul avait implanté l'Église, il avait nourri cette Église pendant 18 mois, a revisité cette Église une fois déjà, et il est en train de leur écrire pour une quatrième fois. Hélas, il est toutefois sous-estimé, lui, par des Corinthiens. Verset 11 de notre texte, il leur dit que c'est par vue que j'aurais dû être recommandé. Mais leur oreille a été détournée par ceux qui virculaient un message plus impressionnant que l'apôtre Paul. Verset 6 du chapitre 11 nous parle des orateurs impressionnants avec de l'éloquence. Chapitre 5, verset 12 parle de ceux qui mettent leur fierté, non pas dans le cœur, mais dans les apparences. Les hommes et les manifestations impressionnantes. Et d'une certaine manière, ce ministère-là a marché, car face à de telles choses, attiré par l'apparence, sachant que Paul, lui, a dû beaucoup souffrir, dans son ministère, eux, ces Corinthiens, ils croient que le discours de ceux qui disent non, que si Dieu est le plus grand, alors manifestement, ceux qui parlent pour lui doivent être capables de faire de choses grandioses également. C'est un peu comme ça que ça marchait, ça a attiré cette jeune église. La personne qui dit qu'il croirait en Dieu, peut-être vous connaissez une telle personne, si Dieu lui donne une preuve impressionnante de sa présence, tombe, cette personne-là, dans cette même erreur. Car ce que Paul savait, il savait que ce n'était pas ainsi que quelqu'un vient à la foi en Jésus-Christ. Car le problème de l'homme n'est pas un manque de preuves à propos de Dieu, mais plutôt le cœur de l'homme qui s'obstine, qui rejette la révélation de Dieu qui est déjà là. Et donc, aussi impressionnante que nous pouvons donner une manifestation de la grandeur de Dieu, cela ne suffit pas pour quelqu'un se tourne vers Dieu. Le message que Paul proclamait, lui, transformait le cœur. Car le message portait sur la mort de Jésus-Christ. Mort en faiblesse apparente sur une croix romaine. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens que ce message-là est une folie pour le non-croyant. Un scandale même pour le juif. Mais pour nous qui croyons, sagesse et puissance de Dieu. Car ce n'est que là où le problème du cœur endurci de l'homme est résolu dans le message de Jésus-Christ crucifié. Où Dieu, donc, de par ce message-là, est capable d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions nous approcher de lui pour obtenir le pardon de nos péchés. Paul, donc, dans son ministère, cherchait à tout prix à privilégier la proclamation du message de Christ crucifié. Il savait que le fait d'attacher trop d'importance à sa personne, à ses œuvres, à sa rhétorique, à son charisme, c'était une piste qui, au lieu d'amener les gens à Jésus-Christ, ultimement les détournait de Jésus-Christ. Il mettait donc volontiers, on a vu ceci il y a 15 jours dans 2 Corinthiens chapitre 12, il mettait sa fierté dans mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Donc le message qu'il proclamait, il le savait, était le message authentique que Christ lui-même lui avait confié en tant qu'apôtre. C'était ça ce qu'il était. Avec les 12 disciples, il faisait partie de ceux qui avaient été envoyés en tant qu'apôtres par le Seigneur, dotés par l'Esprit de Dieu pour proclamer ce message de repentance et de foi en Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, est construite sur le fondement, alors Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit ceci, le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. On arrive à Jésus-Christ de par la proclamation des apôtres et des prophètes du premier siècle après Jésus-Christ. S'éloigner donc de Paul, l'apôtre, ce qui était le cas pour les Corinthiens, c'était de s'éloigner, vous voyez, de Christ. Et donc Paul doit les rappeler de son statut en tant qu'apôtre pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça ce qu'il fait, verset 11, deuxième partie, « Je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs, bien que je ne sois rien. » Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il suffit, les amis, de lire le récit des voyages de Paul dans le livre des Actes pour contempler de nombreuses guérisons, des exorcismes, même une résurrection opérée par l'apôtre Paul. De tels signes, dit Paul, donne une preuve incontestable de la réalité de son apostolat, le fait qu'il soit apôtre. Il n'est pas inférieur à ses imposteurs, il doit le dire. Et nous voyons même ici que Paul, il est gêné de devoir parler ainsi. Car qu'est-ce qu'il ajoute tout de suite après ? Bien que je ne sois rien. Il sait qu'il y a toujours ce danger d'investir trop d'importance chez lui, chez l'homme. Ce n'est pas les apparences qui le qualifient pour être quelqu'un devant Dieu. Ce n'est que Jésus-Christ, sa grâce envers lui, parce que sans lui, sans Jésus-Christ et sa grâce, l'apôtre Paul, effectivement, il n'est rien. Et donc voilà pourquoi les Corinthiens auraient dû accorder à Paul l'importance qui lui était due. Pas pour le flatter, mais afin d'encore suivre le message qu'il avait proclamé Paul et afin d'adopter le modèle du ministère que lui, il avait pratiqué. Alors de même encore aujourd'hui, les amis. L'importance pour nous aujourd'hui de l'apôtre Paul devrait être une évidence. Quasi la moitié du Nouveau Testament, la partie de la Bible qui explique la portée de la venue de Jésus-Christ dans notre monde, a été écrite, la moitié, par cet homme, 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Ces écrits continue à être lu, étudié, proclamé par des milliers de personnes par jour. Et c'est grâce à cet homme, l'apôtre Paul, que l'Évangile a été répandu jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Europe même. Si nous sommes là, nous sommes parce que nous insérons dans cette tradition qui découle de ce que Paul lui-même il a fait. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit ? Bien que je ne sois rien. Car son message ne renvoie pas à lui, à Paul, mais à Jésus-Christ. Et du coup, voici l'ironie pour nous. La première chose qui vient à l'esprit de certains croyants lorsqu'ils entendent parler des signes, prodiges et miracles de l'apôtre Paul, c'est de vouloir voir de telles choses dans notre Église aujourd'hui. Il y a ceux qui disent de notre Église, par exemple, très bien cette Église, d'un point de vue d'enseignement, mais moins bien d'un point de vue de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un nous a dit, maintenant ça date un petit peu, je pense qu'il s'était à peu près il y a 15 ans, s'est mis debout lors d'une réunion de membres chez nous, et a dit que la seule chose qui manquait à notre Église, c'était l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi on dirait cela? Car une telle personne a l'habitude de voir un accent sur certains dons de l'Esprit manifestés à l'époque des apôtres, des dons, des signes miraculeux, et ainsi de suite. Et comme il ne voit pas un accent là-dessus chez nous, ce qui est le cas, ils déduisent que l'Église n'a pas d'esprit. Ah, disent-ils, si seulement notre Église, dans notre Église, ces grandes choses se produisaient, alors à ce moment-là, nous deviendrons une grande Église. Les non-croyants croiront que Dieu est à l'œuvre parce que des choses impressionnantes ont lieu. Non, ce n'est pas ça ce que Paul voulait pour l'Église à Corinthe. C'est parce que Paul dit dans ce texte, les signes, dans son cas, dans ce verset, attestent son autorité à lui. Ils ne servent pas d'exemple à pratiquer pour nous. Poursuivre cette piste-là, c'est de poursuivre une piste qui va vers l'immaturité. Paul veut une Église qui grandit, une Église plus profonde qu'une Église qui cherche des apparences impressionnantes. Il veut une Église qui met en avant la proclamation de Christ crucifié. Car ce n'est que le message de Christ crucifié qui résout le problème de notre cœur. Et alors, une Église qui proclame le message de la parole de Dieu, cette parole apostolique de l'apôtre Paul, mais d'autres apôtres aussi, attestée par Dieu, par ses miracles, cette parole donc portée par l'Esprit de Dieu qui est l'épée de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Par une telle Église fait preuve d'une autorité spirituelle authentique. Bien sûr que nous croyons que Dieu peut tout faire. J'aimerais juste souligner cela. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut faire ce qu'il veut faire. Nous ne doutons pas de la grandeur de Dieu. Mais le moyen que Dieu a choisi d'utiliser pour transformer par son esprit un cœur de pierre, un cœur de chair, c'est par le message de Christ, par la puissance de sa parole. Il ne le fait pas selon les critères des hommes, par des apparences impressionnantes. Paul ne veut pas, Dieu ne veut pas donc que les hommes disent « Waouh, regardez ça! Ça, c'est impressionnant !» Non, il préfère qu'on dise « Regardez-le, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de l'Esprit encore aujourd'hui. Donc d'abord, c'était un apôtre authentique, preuve de Paul. Deuxièmement, un amour sacrificiel face à l'ingratitude, peine de Paul. Ce deuxième critère qu'il nous donne témoigne de sa peine. Et cette peine est évidente face à l'ingratitude envers Paul dans l'église de Corinthe. Il est accusé d'avoir agi de manière sournoise, verset 16. Mais en homme fourbe, je vous aurais pris par ruse. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à dire ça? Eh bien, comme un principe bien établi dans le ministère de Paul, il dit, verset 14, « Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la troisième fois et je ne vous serai pas à charge. » Donc, Paul ne dépendait pas financièrement des nouveaux croyants dans l'endroit où il était en train de travailler pour évangéliser, pour implanter. Pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'exercer son ministère simplement comme un moyen de gagner son pain. Non, il ne faisait pas ça, mais il recevait, c'est vrai, souvent de l'argent de ces différentes églises afin de financer par la suite ses projets missionnaires pionniers dans d'autres endroits. Et cette pratique semblait avoir suscité des remarques négatives de la part des Corinthiens. Sans doute car la qualité des super-apôtres, par une logique donc tordue, se confirmait par des sommes impressionnantes qu'ils recevaient pour leur service. Prédicateur X, monsieur super-apôtre numéro 1, il est super impressionnant car les honoraires de conférenciers s'élèvent à X 1000 euros. Paul, vous savez, il ne demande rien. Et donc, d'une part, il y avait ça. Il est peu impressionnant, on ne nous paye pas assez. Mais d'autre part, il soupçonnait Paul d'agir de manière fourbe car ils imaginaient qu'il s'enrichissait personnellement en détournant une partie des fonds collectés pour l'Église à Jérusalem, à son profit à lui. Au chapitre 8, nous avons déjà vu Tite et un autre frère sont mentionnés comme étant des collaborateurs de Paul envoyés afin de récolter la contribution des Corinthiens vers cette collecte. D'où vient donc le verset 17 de notre texte ? Vous ai-je exploité par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai exhorté Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous ne voyez pas là la peine de Paul face à ces accusations blessantes de la part de cette église ingrate? La réalité, c'est que Paul s'est donné, lui, pour cette église, de façon sacrificielle, pas pour une récompense financière, mais pour la gloire de Dieu. Il ne se plaint pas de cela, verset 14b. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ben, généralement, ça reste encore le cas dans nos foyers, si nos enfants sont encore petits, n'est-ce pas? La plupart des parents ici présents donneront leur accord à ce principe. Merci Seigneur, même si parfois c'est dur. Ceci ne dit pas qu'il n'y a pas un moment plus tard lorsque des adultes prennent en charge des parents âgés, que mes enfants ici présents comprennent bien la chose. Mais il affirme le principe que le rôle d'un parent en tant que parent, lorsque ses enfants sont petits et grandissent, c'est bien sûr de prendre soin de nos enfants, de se donner pour le bien de nos enfants. Vous faites ça, j'imagine bien. Et Paul, auprès des Corinthiens, a agi de la même façon, il dit. Il n'a pas été à leur charge. Cela témoigne donc d'un amour pour ces chrétiens à Corinthe, d'un parent envers son enfant. Et dans un sens, c'est normal. Verset 15, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Ce qui n'est pas normal, c'est donc l'ingratitude d'un enfant face à cette générosité. Vous connaissez peut-être un enfant gâté qui croit que c'est normal de traiter un parent patient et généreux qui se donne pour l'enfant de manière sacrificielle, et ensuite de voir l'enfant traiter le parent avec dédain, avec du mépris, c'est jamais beau à voir cela, les amis, n'est-ce pas? Ce que Paul cherche, vous voyez, ce n'est pas d'être récompensé par les Corinthiens, mais d'être accueilli. Il a droit quand même à cela, n'est-ce pas? Verset 14, « Car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. » Il cherche une relation proche avec ses enfants dans la foi. Verset 15, deuxième partie, « En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous ?» Quelle peine qu'il y a de devoir faire face à une telle ingratitude. Et disons-le de nouveau, la gratitude, la reconnaissance, encore aujourd'hui pour le croyant en Jésus-Christ, c'est l'une des premières marques de la maturité chrétienne. Car si Dieu donne par sa grâce imméritée, le seul moyen d'accueillir ce que Dieu donne, c'est de le recevoir avec reconnaissance. Et dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup de versets qui parlent de la reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu. Colossiens 2, verset 7. « Soyez enracinés, fondés en lui, en Jésus, affermis dans une foi telle que vous a été enseignée. Et soyez en riches en exprimant quoi? Votre reconnaissance à Dieu. » Mais reconnaissons aussi de manière plus générale. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, trois exhortations. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un manque de reconnaissance parmi nous, envers Dieu, entre nous, témoigne de l'immaturité spirituelle, de l'adolescence, si vous voulez. Je ne dis pas que les ados ne sont pas reconnaissants, mais quand même, c'est une période parfois d'immaturité. Certains parents l'ont observé. Un manque de compréhension de jusqu'à quel point, en tant qu'enfant, nous avons reçu tout dont nous avons besoin de la part des parents. Alors, pour un chrétien qui manque de reconnaissance envers Dieu, envers l'apôtre Paul. Ici, c'est un manque de maturité, de l'adolescence spirituelle, si vous voulez. Et donc, deux réflexions, si vous permettez, avant de terminer ce point. D'abord, à propos du côté ingrat du ministère chrétien, de peiner dans un contexte ou un autre, dans lequel nous nous donnons de nous-mêmes de manière sacrificielle, sans avoir de remerciements forcément en retour. Ce n'est pas réservé ce sentiment-là rien qu'aux parents, dans un foyer, ça se ressent également parfois dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église locale de Bruxelles-Wallouais, ça peut nous arriver. Nous arriver de servir les enfants, Wallou Kids, sans le moindre remerciement, sans qu'une fois un parent vienne dans la classe pour s'intéresser à ce qu'on fait avec vos enfants. C'est pour ça que cette année-ci, on demande à chaque classe de recevoir pendant un petit moment, à la fin du culte, des différents parents. On aimerait bien qu'il y ait une cohésion. Parce que c'est facile juste de dire, bon, voilà, c'est ça ce que vous faites. Attends, je ne suis pas payé pour ça, vous savez, je fais ça bénévolement. Et vous vous fichez royalement de ce qu'on fait? Quelle ingratitude, si c'est le cas. Alors, ça nous arrive parfois de servir lors d'une agape, un moment bien fraternel, n'est-ce pas? Et au lieu d'être remercié pour mon travail bénévole et même pas sollicité, je me présente et je vois qu'il y a un besoin, je sais, bah, tout d'un coup, je suis critiqué, car je n'avais pas réservé le morceau de gâteau pour la personne égoïste qui voulait surtout un morceau de ce gâteau-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle immaturité! Eh oui, nous devons parfois servir dans ce contexte-là. Servir dans un ministère et pour un tout petit détail secondaire de devoir faire face à une personne qui boude, qui menace de quitter le groupe ou l'église ou que sais-je encore, parce qu'il n'est pas satisfait avec ce petit détail-là. ou d'enseigner nos ados dans le groupe des femmes ou le dimanche matin est la première chose qu'on nous dit. Je comprends qu'on peut le dire, hein, de temps en temps c'est utile qu'on l'entende, mais la première chose qu'on dit, c'était trop long. C'est vrai? À ce point-là, un manque de reconnaissance? Servir et persévérer à servir fait preuve, chers amis, d'un amour sacrificiel, à la lumière du sacrifice même du Christ. C'est la première chose juste à souligner. Deuxième chose, c'est également cela, un indice d'une Église en bonne santé, d'un chrétien en bonne santé. Lorsque ce type de ministère sacrificiel a lieu parmi nous, remercions le Seigneur pour cela. Paul, critiqué par ses ennemis, pris pour acquis par les Corinthiens, était l'homme, lui, toutefois, qui exerçait ce ministère spirituel dont eux, ils avaient besoin. Et donc, dans la mesure où nous voyons ce genre de ministère parmi nous, sacrificiel, qui ne tire pas le regard sur l'homme et ses accomplissements, mais sur Christ et les accomplissements de Christ, c'est bon signe pour notre Église locale. Et ça peut être subtil, les amis, ici, quand il y a moyen parfois de parler de Christ, comme faisaient les super-apôtres. Ils se disaient quand même super-apôtres de Christ, tout en attirant l'attention sur soi. Laisse-moi vous parler de ce qui m'est arrivé, moi. Ce que Christ fait dans mon Église. La conversation que Christ m'a permis d'avoir. La réponse puissante de Christ suite à mes prières. Parfois, oui, nous parlons de Jésus, mais je suis bien présent. Comprenez cela. Nous sommes enthousiastes lorsque nous parlons des choses qui nous arrivent, qui m'arrivent dans ma foi, qui pourraient impressionner les autres. Oui, bien sûr, c'est encourageant de voir Christ à l'œuvre réellement dans nos vies. Mais méfions-nous d'un accent trop prononcé sur le fait qu'il est à l'œuvre à travers moi. Rappelons-nous la fin du verset 11, « Bien que je ne sois rien. » Bien sûr, c'est encourageant d'entendre parler de ce que Christ fait dans la vie de quelqu'un, lire des biographies, entendre des témoignages. Cela peut nous encourager en Église de mieux contempler l'œuvre de Dieu parmi nous et en nous. Bien sûr que nous devons laisser un peu de place pour des personnalités différentes parmi nous. Quelqu'un qui est plus extraverti, plus enthousiaste, quelqu'un qui est un peu plus introverti, qui a plus du mal à s'exprimer haut et fort de leurs expériences personnelles. Mais que Dieu nous garde de ceux qui attirent l'attention sur eux. Que nous travaillons encore cette année-ci humblement, de manière sacrificielle, pour que le regard tombe dans notre Église sur Jésus-Christ et que nous soyons reconnaissants, chers amis, pour ce ministère-là. Alors, la dernière caractéristique, critère qu'il nous donne, c'est à la fin de ce texte, la face cachée de la spiritualité effrénée. Crainte de Paul. Paul comptait leur rendre visite pour une troisième fois, il dit au verset 14. La deuxième fois, on sait déjà depuis le début de cette épître, n'a pas été une visite facile. Et donc, la raison pour laquelle il leur écrit avant cette troisième visite, ce n'est pas, contrairement à ce que nous pouvons peut-être croire, pour se défendre, il dit au verset 19, mais c'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien aimé, pour votre édification. Qu'est-ce qu'il désire? Leur maturité, leur croissance en Christ. Mais verset 20, il craint autre chose, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontars, de l'orgueil, des désordres. Donc il craint quoi? Il craint de découvrir le fruit de la chair. et pas le fruit de l'esprit. Et c'est là le danger, si vous le permettez. Ce que j'appelle la face cachée de la spiritualité effrénée. Car chercher et se vanter des apparences, des choses qui frappent aux yeux, inévitablement, nous sommes entraînés dans un petit jeu de pouvoir. Toi, tu es plus spirituel que moi, ou moi, je suis plus spirituel que toi. Dans ce cas, je dois faire preuve de dons alors encore plus spectaculaires que toi, pour que moi, je puisse être à la hauteur de toi. Qu'est-ce que ça crée? Jalousie, animosité, rivalité, médisance. Cela se voit dans leur attitude ingrate envers l'apôtre, qui cherche le bien, tout cela sous prétexte de spiritualité impressionnante. Mais quelle tristesse de voir ça dans cette église. Et parce que les apparences sont mises en avant, la transformation du cœur de l'homme par l'évangile de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ est négligée. La preuve d'une spiritualité, de l'œuvre authentique de l'Esprit-Saint, c'est une croissance et un attachement à la sainteté. Ce n'est pas donc ce que je dis à propos de l'Esprit qui fait preuve de la vie de l'Esprit en moi. Ce n'est pas de manifestation d'un don ou un autre, mais c'est comment je vis. Est-ce que je fais preuve du fruit de l'Esprit? Est-ce que je fais preuve de la reconnaissance? Est-ce que je fais preuve, alors je cite le fruit de l'Esprit maintenant, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise du soi? Paul, il plaide pour ça. Nous devons, chers amis, plaider pour cela. Si on ne voit pas ces qualités-là dans notre Église, ben nous devons chercher une autre. Ensuite, écoutez ce que Paul dit au verset 21, car c'est très touchant, ceci. Verset 21. « Je crains qu'à mon arrivée, du moins Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et ne sont pas, se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite, du dérèglement qu'ils ont pratiqué. » On voit ici le cœur pastoral de Paul. Il aime ses enfants dans la foi à un point où il ressent lui-même leur échec. Il est même impliqué d'une certaine manière dans leur échec. Il aurait pu simplement dire qu'il craint à son arrivée, je vais devoir mettre de l'ordre dans cette église. Mais il ne dit pas cela, il craint que Dieu l'humilie lui de nouveau. Ben comment ça? Leurs fautes sont les leurs, n'est-ce pas? C'est leur humiliation, ce n'est pas la sienne. Mais il ressent leur échec comme étant lié à lui, car il s'identifie à eux. Il ressent leur faute comme une humiliation aussi pour lui. Les parents, de nouveau, des enfants qui sont devenus grands comprendront, je pense, ce sentiment d'échec que nous pouvons avoir si nous avons de l'amour pour notre enfant. En quelque sorte, oui, nous ressentons leur échec personnellement, et c'est dur. Alors Paul pleure sur cette église à Corinthe. Il sait ce que c'est cette faiblesse humaine. Il le ressent lui-même. Il est tout le contraire donc de ceux qui sont fiers d'eux-mêmes, de ces super apôtres, super impressionnants. Leur ministère met l'homme au centre, met les apparences impressionnantes au centre. Et cela mène l'église de Corinthe loin de Christ, de son pardon, de la transformation duquel ça nous approche plutôt de Satan, de ses flatteries trompeuses, et donc au jugement. Paul, quant à lui, il nous dirige à Christ, à son évangile, à sa bonne nouvelle, qui transforme, qui édifie, qui est précieux pour eux et pour nous. Donc prions, chers frères et sœurs, au début de cette année de ministère dans cette église, que le Seigneur nous accorde un ministère semblable au ministère de l'apôtre Paul. Un ministère imprégné du fruit de l'Esprit. Voici un peuple spirituel, un peuple doté de l'Esprit de Saint, de l'Esprit Saint. Que le Seigneur ait pitié, chers amis, de nous, qu'il se sert de nous pour renvoyer des gens à lui. Prions, si vous voulez bien, pour terminer. Combien, Seigneur, nous te louons pour le travail de l'apôtre Paul. Merci que tu t'es servi de cet homme de façon extraordinaire. Et malgré cela, Seigneur, qu'il a bien compris la bonne nouvelle qui nous renvoie à Jésus et pas aux hommes, et qu'il dise aussi bien que je ne sois rien. Et que ça soit aussi ce que nous nous disons, que nous travaillons ensemble dans la joie de proclamer la puissance de ce que toi tu as effectué pour nous en Christ, sans vouloir attirer l'attention sur nous. Et donc, donne-nous d'être un peuple reconnaissant, d'être un peuple imprégné de l'œuvre de ton esprit. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire, nous t'en prions. Amen.